Donc, mon bébé, tu parles bien dans la partie noire. Le nez au niveau pour qu'on t'entende bien. Ok? Ouais.
Bonjour et bienvenue dans Le Catering, un podcast où on parle d'improvisation théâtrale, bien sûr, mais pas seulement. Une émission créée et présentée par Jeanne Chartier et Baptiste de Oliveira.
Baptiste de Oliveira.
Le FAQ du Catherine, Catherine.
Jeanne Chartier.
Et bébé. C'est le FAQ, FAQ, FAQ du Catherine.
On chante si mal que ça, bébé. Désolé. Tout va bien.
C'est du faux rap.
On est si mauvais que ça.
Tout va bien, mon trésor.
Eh ben, bienvenue pour cette émission du catering. On a décidé de faire une petite foire à questions, un FAQ, avant l'été, histoire de répondre à vos interrogations. Et on est donc avec Jeanne Chartier. Comment ça va?
Ça va et toi?
Ouais, et on est avec notre fille qui est là à côté, à qui j'ai installé un petit micro histoire que vous viviez cette expérience en immersion avec nous.
Il faut expliquer qu'en gros, on n'a pas encore de personnes capables de nous aider à la garder dans des moments de décision impromptue.
Oui, puis ça s'est décidé vendredi, quoi.
Voilà, c'est pour ça.
Voilà. Donc voilà, vous allez l'entendre. Je trouve ça très drôle qu'elle ait pleuré.
Ah mon Dieu, elle a honte.
Est-ce que tu voudrais qu'on se fasse une petite présentation croisée, comme on fait faire aux invités?
Waouh, ah ouais, tu me mets la pression, c'était pas prévu ça.
Non, je l'ai... En fait, en faisant la conduite, j'ai vu cette présentation croisée, je me dis, est-ce qu'on la ferait pas? Comment tu me présenterais dans une soirée?
Alors attends, c'est des gens qui te connaissent pas?
C'est des gens qui me connaissent pas, non.
Alors Baptiste, déjà, malgré sa grande taille, est quelqu'un de très timide. Il est proportionnellement aussi timide qu'il est grand et imposant physiquement. Donc déjà, partez de ce principe, les gars. Ensuite, il est extrêmement drôle. À la seconde où vous allez échanger peut-être trois phrases, il va vous faire rire, forcément. Bon, principalement avec un jeu de mots, ce qui n'est pas pour me réjouir tous les jours. Mais voilà, c'est sa cam, quoi. Et puis, ben, il est gentil et c'est un putain d'ami. S'il décide d'être ami, voilà, ma fille est d'accord.
Elle valide.
Et fidèle, quoi. Fidèle en amitié, j'espère fidèle en amour.
Oui.
Voilà. Et puis après, professionnellement, quelqu'un de très talentueux, pas assez reconnu à mon goût, hein, qui se fait voler la vedette. Voilà.
Fait voler la vedette.
Il se fait voler la vedette.
Elle est où la vedette? Comment elle va la vedette?
Voilà. Mmh. Ça te va comme présentation?
Oui, je trouve ça très bien. T'en veux une, toi?
J'ai peur.
Ah ouais? J'ai peur. Soirée, Jeanne Chartier connaît personne. Jeanne Chartier arrive. Donc déjà, voilà Jeanne Chartier. Il faut prononcer son prénom et son nom à la suite.
On ne sait pas pourquoi, ça a toujours été comme ça.
Les gens qui sont pseudo-visited fans vont dire « c'est Jeanne Chartier ». Ce mariage.
Petite référence personnelle.
C'est Jeanne Chartier, ça. Non, mais Jeanne, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, qui a pendant longtemps fait passer le bonheur des autres avant le sien. Et même si aujourd'hui ça va mieux, il y a encore des petites séquelles. Quand même, elle aura tendance à prendre soin de vous. N'allez pas lui parler seul à seul. Pourquoi? Parce que sinon, au bout de 15 minutes, vous pleurez.
Mais parce ça, ça fait peur aux gens.
Parce que naturellement, elle a ce pouvoir. Elle vous donne envie de vous confier. Et vous vous confiez, et elle vous écoute, et elle vous accueille. Et ça fait du bien, et donc vous pleurez. L'effet Jeanne Chartier. Moi, j'adore lâcher Jeanne Chartier dans une salle et voir qui elle va faire pleurer de confidence.
Souris. Je suis une tortionnaire.
Non, non, même pas en disant des choses, juste en écoutant. C'est ça qui est très rigolo. Et puis, qu'est-ce qu'elle est drôle aussi. Ça, qu'est-ce qu'elle est drôle.
J'essaye.
On fait notre mieux. Et puis, qu'est-ce qu'elle est belle, surtout.
Oh, merci,
qu'est-ce qu'elle est belle. Elle valide aussi.
Ma fille, d'accord. Ça, c'est bon, ça, bah, c'est chouette.
Bon, alors, avant de commencer ces petites questions, moi, j'ai fait un petit récapitulatif d'où on en était dans le catering.
Un récaca?
Un récaca, un récapipi, un récapitulatitif. Je ne rappe pas, je fais des... Allez, public difficile, hein. Alors, le catering, c'est aujourd'hui plus de 10 000 écoutes, toutes plateformes confondues. On a dépassé ce record récemment.
Trop bien.
Très heureux. 10 000 écoutes. Le premier épisode, celui avec Julie Galibert et Jérémy Crédville, a dépassé les 1 000 écoutes.
Alors qu'il était loin d'être au point.
Hein. Ah, c'était le tout premier.
Il me fait un peu mal à la réécoute sur les questions un peu nulles quand même qu'on leur a posées.
On va les réinviter tous les deux séparément pour qu'ils revivent ça. Puis voilà. Au passage, donc, notre top 5 de plus grand épisode, donc on a celui-là avec 1 000. En deuxième, c'est celui de Papier JB à 491, celui de Thierry Bilisco et Florence Alérac avec 480, celui de Marc Eloïc à 463 et celui de Menge Poloche à 405. Voilà. C'est des très belles écoutes. On a 614 abonnés sur notre page Instagram. J'ai découvert ça, j'ai trouvé ça magnifique.
Ah, ça a augmenté
pour un podcast.
Ouais.
Il y a eu des petits trucs à droite à gauche. On est à 400 sur Facebook, donc on est très très content qu'il y ait ce petit groupuscule d'impro qui nous suivent, qui est même des gens qui fassent pas d'impro. Je sais qu'il y en a parmi vous, des gens qui n'en pratiquent pas ou juste qui connaissent des gens qui en font et qui nous écoutent. Voilà, notamment la famille de Guano. Je sais que vous nous écoutez, donc je vous salue.
Ah ouais, on est comme
parce
ça.
Que il m'a dit, ma famille a écouté mon épisode et puis ils ont continué à écouter. Après ils ont dit oui, toi t'étais sympa, mais l'émission elle est bien. Donc c'est cool.
Ah oui, on les embrasse s'ils continuent à nous écouter.
Bien sûr. Et donc sur toutes ces écoutes là, ces 10 000 écoutes, on a pratiquement la moitié qui sont sur Apple Podcast. Voilà. Et c'est un site où on peut mettre des notes et des commentaires au podcast. Et je vois que nous n'avons que 8 notes et 3 commentaires, dont un de moi.
Ah.
Alors que vous êtes 117 auditeurs assidus.
Bah alors donc on invite les gens à laisser
oui,
un commentaire, une petite note.
On profite que c'est un petit hors-série pour dire, peu importe la plateforme, mettez un petit cœur ou ajoutez à la liste, mettez une note histoire que...
Oui, qu'on remonte un peu dans les chartes.
C'est ça, qu'en fait le but aussi de ce podcast, c'est certes de faire quelque chose entre nous qui parlent d'impro, mais aussi de faire
mieux,
découvrir...
Top 14.
C'est aussi de faire découvrir l'improvisation à ceux qui ne connaissent pas forcément ou qui ont l'image de se dire, ah bah l'impro, oui, c'est le match où c'est vendredi, tout est permis, tous ces trucs-là, voilà. Montrer que l'impro, c'est aussi autre chose, donc allez-y, faites monter. On y va ?
Allez.
On part sur les questions des auditeurs. Ouais, on a des génériques autant que ça sert. Hein. Alors, les questions des auditeurs. On a donc fait un Google Form que les gens ont rempli en mettant leur nom ou pas. Et on va commencer par la première question qui est Dimitri Souma, qui nous dit un gros bisou à vous, les amis, en espérant de se croiser à nouveau cette saison, et qui nous demande, mais d'où vient cette photo ? Qu'on a utilisé pour l'annonce du FAQ.
Ah, la noire et blanc.
Oui.
Elle vient de notre premier ou deuxième live.
Elle vient du premier parce
premier
qu'on est en costume.
Live, ouais. Premier live qu'on a commenté de la Coupe Paris Impro.
Tout à fait. Et donc, cette question n'est pas la première puisque Dimitri Souma est donc le réalisateur de ce live.
Voilà, mais pour ceux qui ne le savaient pas, on vous fait découvrir Dimitri, qui est un homme de talent.
Tout à fait.
Un bosseur acharné, parce que je me souviens qu'il bossait des nuits entières pour préparer le live.
On a fait pour être sûr que ce soit nickel, on avait fait des répétitions chez lui. Il avait filmé des impros de la coupe. On les diffusait et on les commentait pour s'entraîner au rythme, tout ça. Gros, gros boulot. Une très belle barbe, il faut le dire aussi.
Et tout à fait. Après, moi, je suis peut-être moins sensible à
moi,
la qualité de la barbe.
Moi, c'est important de noter une qualité de barbe,
ouais,
bien sûr.
Non, mais un talent fou dans ses équipes aussi, parce que on en a fait deux des lives qui ont été, évidemment, le premier a servi au deuxième, mais il y a eu d'autres problèmes sur le deuxième. Il y a toujours des problèmes quand on fait un live. C'était un pari incroyable de la part de Christophe et Laetitia de mettre ça en place pour la Coupe Paris Impro. Bon. Sans secret, je ne suis pas sûre que ça perdure. On n'a pas trop de nouvelles. Je ne sais pas trop quels sont les projets de la Coupe l'année prochaine, mais nous, on a été plus que ravis de faire partie de ce projet, de l'expérimenter. C'était génial. Les interviews. Sur le deuxième live, on a fait même des interviews au centre de la patinoire, qui étaient vraiment sympas. Même les montages vidéo qu'ils ont faits sur les coulisses...
Non, c'était
vraiment super.
C'était
et donc,
vraiment trop
voilà,
cool.
Cette photo vient de là et on l'a prise là parce que c'est une photo de nous qui est. On a beaucoup de photos perso.
Ouais, on n'a pas beaucoup,
pas beaucoup
des
de photos pro. Donc voilà. Pourquoi
et
on
pour être précis, cette photo est une photo de ma mère qui a pris en photo la télé.
Exactement.
Quand elle prenait
ta
mère quand elle
est
regardait.
Ta putain de première femme.
Oh, j'ai eu peur à la fin de cette phrase. Voilà pour cette question-là. Voilà, je l'ai mise parce que je trouvais ça cool de reparler un peu de ce live parce qu'on les a abordés rapidement. En disant ouais, on va le faire.
On
n'a jamais dit comment on s'était ressenti. Et c'était vraiment un super moment. Et on a hâte que ça amène sur de nouvelles choses.
J'ai même envie de dire, ça leur a demandé un matériel énorme, un investissement financier énorme et tout ça. Mais s'il y a d'autres personnes en France ou ailleurs qui se sentent capables de monter un projet comme ça, faites-le. Pour l'impro, c'est incroyable. Ça, ça, on a reçu beaucoup de messages, nous, perso, de gens qu'on a dans les dom-tom ou ailleurs qu'on connaît, qui ont dit « Mais quel bonheur de pouvoir regarder un match de chez nous avec une telle qualité d'image. » Donc vraiment, je salue encore tout ce qui était technique. Il y a eu Quack Production qui a rejoint la technique sur le deuxième live et ça a beaucoup joué aussi. Ce sont des gens formidables avec une vraie qualité de... Enfin, ils savent ce qu'ils font, quoi. Donc, ouais. Bon, voilà. J'encourage des gens qui auraient la même initiative, l'envie en tout cas de foncer.
Ouais. Donc, dans le formulaire, j'avais mis que ce n'était pas obligatoire de mettre son nom et donc j'ai pas obligatoire qui nous demande comment on choisit les invités. Eh bien, écoutez, plouf, on fait. Non.
Globalement, ce sont des amis à nous.
Oui,
hein.
c'est des gens qu'on connaît, qu'on aime bien. Avec
il y a eu
qui
très peu de gens qu'on ne connaissait pas. Par exemple, le directeur Antonin, l'ex-directeur, enfin le fondateur
de
Clowns Sans Frontières, on ne le connaissait pas personnellement. Il était venu par le biais de
Patrick Devalette, qu'on ne connaissait pas non plus personnellement.
Voilà, avec qui on avait simplement échangé entre artistes.
Ça fait partie des personnes que j'ai contactées un peu. Pas au culot, mais juste pour dire, bah voilà, on aimerait bien parler de cette ambiance-là, de cette image-là. Et voilà, ils nous ont suivis, donc c'était trop cool. Et sinon, pour le reste du temps, bah voilà, on a eu des candidatures spontanées. Nicolas Jauregui qui nous a dit, je veux faire le catering, ça va si je viens avec Guillaume Darnot. Voilà, et nous, qu'en fait, quand ça nous plaît, quand c'est des gens sympas, des gens qui nous font,
alors,
nous font rire.
Alors, faut dire quand même, c'est vrai que la question, elle est hyper... en fait, elle permet de répondre à plein de trucs, mais on cherche quand même à équilibrer les duos.
Oui.
Donc, pas forcément homme-femme, parce qu'il y a un truc qui me gêne dans ce truc-là, mais si on peut donner la parole à une femme plutôt qu'à un homme, je vous avoue qu'on le fera. Mais c'est pas ça notre moteur. Notre moteur, c'est quel va être le lien entre les deux personnes. Est-ce qu'elles ont eu des choses en commun et est-ce qu'elles ont un discours commun qui va être intéressant, ou alors, à l'inverse, un discours un peu contradictoire qui va être aussi riche pour nous de développer dans l'émission. Et puis des gens qui s'entendent bien, parce que sinon, c'est pas sympa, quoi. On est là quand même pour passer un bon moment, pour papoter. Donc, clairement, c'est parti de l'envie d'inviter nos potes. Et puis, on l'a ouvert à l'envie de rencontrer des gens qui nous intéressent et qui s'entendent bien ensemble. Voilà.
Tout à fait.
Mais voilà. Plus ça va aller, plus ce seront des gens qu'on connaîtra moins, parce qu'on aura fait le tour de nos potes, même si on va en faire revenir quelques-uns. Je pense que ça va commencer à s'ouvrir un peu plus largement. Et puis, on espère que les écoutes, le nombre d'écoutes, va faire que d'autres gens auront envie de venir aussi.
Il y a plein de choses. Il y a les amis qui sont loin, qui bougent beaucoup. Vous l'avez vu, la mission a été annulée parce qu'on est tombé malade, mais on avait une émission qui se préparait avec Cécile Giroud et Yann Stott. C'est dans les bacs depuis longtemps, et c'est vrai que pour trouver du temps pour les faire venir, voilà, il y a plein de choses.
Yann Berrier, on a des gens comme ça qui ne sont pas parisiens.
Il y a aussi une règle qui est très importante, il faut que ce soit facile.
Ouais.
Si c'est une galère à organiser, ça nous saoule et il y a moins de plaisir. Alors du coup, faut que ça se fasse, mais smooth. Et là, il n'y a rien de mieux. Voilà, on va attaquer une question sérieuse, là, dès le début, qui tombe bien. Il s'est appelé dans le formulaire le président des débutants anonymes, qui nous demande « Est-ce que tout le monde peut devenir bon en impro ?» Et il rajoute « Je parle ici de répartie, de lâcher prise, de construction. Perso, ça fait 30 ans que j'essaie de lâcher prise dans la vie tous les jours et je n'y arrive pas. Je ne vois pas comment réussir en impro en quelques années. C'est dommage, car quand ça arrive, entre parenthèses, très rarement, ça rend très bien.
Beaucoup
de choses dans cette question. Et moi, j'ai une réponse. Parce que cette question est tombée sur les oreilles d'un...
Dans les oreilles.
Dans les oreilles, oui, de quelqu'un qui
un
souhaiterait...
Un grand spécialiste.
Un grand spécialiste qui souhaiterait y répondre.
Est-ce que tout le monde peut devenir bon en impro ? Bien sûr que oui, si vous faites 3 heures de balles de couleur par jour. Voilà.
Voilà, donc une réponse de Yann Parizeau qui nous répond à cette question. Bien sûr, l'entraînement, l'efficacité.
Ah, génial.
On a aussi une réponse d'un chaman de l'impro, j'ai l'impression. J'ai contacté Loïc Collin et j'ai eu une réponse d'un chaman qui apparemment la recette...
Il connaît pas mal de chamans.
Donc je vous mets cette réponse.
Est-ce que tout le monde peut devenir bon en impro ? Mais oui. Bien évidemment que tout le monde peut devenir bon en impro. Il suffit d'un tout petit peu d'investissement, de beaucoup de travail et d'une certaine abnégation. Mais tout le monde, absolument tout le monde, peut devenir bon en impro. Je dirais même que tout le monde peut devenir très bon en impro. Je dirais même très très bon en impro, bien sûr. Ça n'est que de la pratique, de la technique, de la confiance. Après, est-ce que tout le monde peut devenir excellent? Là, peut-être qu'arrive à un certain moment une dose de talent que tout le monde n'aura pas. Mais qui d'entre nous est capable de faire la différence entre le très 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 bon et l'excellence? Si peu, si peu. Alors, allez, hop, tous au travail.
Un chaman, hein. Et on a une dernière réponse de Muriel Ekovich qui nous dit.
Peut-être.
Voilà.
Ah. Bah, merci à tous ces experts.
Bah, tout
La
à fait.
question n'est pas petite.
Non, non.
Et je pense qu'en plus, elle attend de notre auditeur, hein, une réponse. Il y a eu la blague de Yann Parizeau avec les balles de couleur dont on connaît l'histoire, et ceux qui ne connaissent pas l'historique, eh bien, renseignez-vous.
C'est ça.
C'est trop long à expliquer. Loïc, dans sa blague vocale, a quand même donné plein, je pense, de choses auxquelles il croit. Le travail, l'implication, la concentration, voilà. Je pense que cette personne, elle a peut-être aussi... Un regard, je ne sais pas si elle a lu le livre, je vous invite donc à lire le livre de Nabla Leviste, dans lequel il y a quand même une mise en avant du parcours et du résultat. Et que peut-être au sein de cette question, il y a peut-être trop d'envie de résultat et pas assez d'envie de faire le chemin.
Oui.
Et que ça vaudrait la peine de se dire, on n'est pas... On reste pas, on stagne pas, c'est pas vrai, ça n'existe pas, ça c'est le regard qu'on porte sur ce qu'on fait. Et on est notre principal moteur. Donc il ne faut pas attendre des autres aussi de nous sortir d'une stupeur ou d'un manque de prise de risque, parce que l'avancement, il vient aussi dans la gestion de la prise de risque. Moi, je dis souvent qu'il faut arriver à repousser son cercle de risque pas à pas. Il ne faut pas aller trop vite, trop loin, il ne faut pas rester non plus caché dedans. Pour moi, c'est ça qui va faire qu'on avance.
Et puis moi, la question, est-ce que tout le monde peut devenir bon en impro? Bah, j'ai envie de dire non, parce que bah, j'en ai vu des personnes qui font de l'impro pendant 10-12 ans et tu les vois pas progresser et tu sais pas quoi faire. Mais c'est un peu pour faire une réponse un peu provocante, pour soulever un peu, parce que, bah, en effet, ce que tu dis, Jeanne, sur le fait que les gens qui veulent trop progresser n'y arriveront pas, au bout d'un moment, ils vont se heurter à quelque chose. Mais et en fait, il y a des personnes qui vont avoir un instinct, ils vont comprendre l'impro direct et tout de suite, ça va, les mécanismes, le jeu en groupe, ça va marcher. Et d'autres pour qui il va falloir beaucoup plus de travail et pas que de l'impro. À un moment donné, bon, j'empiète un petit peu sur une question qu'on a après, mais faut aussi, il n'y a pas que de l'impro, il faut aller voir ailleurs sur d'autres choses.
Oui, se nourrir d'autres choses.
Voilà, il faut aussi parler aux gens autour, enfin, il faut savoir communiquer, il faut savoir... L'impro, c'est vraiment quelque chose qui mélange énormément de choses et l'esprit d'équipe, c'est hyper important aussi. Et souvent, on va pas progresser parce qu'on est dans un groupe qui va pas nous correspondre ou parce qu'on va pas oser se dire les choses et il faut pouvoir trouver un moyen de se parler. Et voilà, en vrai, tout le monde peut devenir bon en impro, mais il y en a pour qui...
Tu viens de dire le contraire,
Non,
donc
mais c'est ce que j'ai dit. Je voulais dire, j'ai fait une réponse un peu provocante, mais il y en a pour qui en un an ça va se faire, et d'autres personnes, il va leur falloir du temps, découvrir d'autres façons d'improviser. Il y a aussi ça aussi, c'est un truc qui est important. Tout le monde n'est pas bon dans la même impro. Il
dans
y
le
a
même
des
genre,
gens
tu veux dire le même
dans le même
style?
genre, dans le même style. Il y a des gens, tu les mets dans des longues formes très intimistes, ils vont être très très bons. Tu les mets dans un cabaret où il faut un peu plus être énergique, tout ça, ils vont se sentir à la ramasse. Donc
Oui, c'est pour ça qu'il faut s'essayer
voilà,
et aller
il faut
chercher.
trouver son genre, il faut
Après,
voilà,
il y en
il
a qui sont
faut
bons dans tout, mais tout le monde n'est pas ça.
voilà, il
Donc,
faut pouvoir alterner.
moi, j'ajouterais que parfois, il y a aussi parce qu'on n'a pas le choix, parce que la région dans laquelle on est, il n'y a qu'un seul cours ou il n'y a qu'un seul prof, mais il faut savoir s'ouvrir à d'autres visions de l'impro. Je sais que ça se fait de plus en plus et j'en suis ravie. Et moi-même, je bouge, on me demande de venir ici ou là et c'est très chouette. Je pense que, il y a des écoles, ne serait-ce qu'à Paris, qui s'entretiennent un peu trop toutes seules, sur
Oui,
elles-mêmes.
comme disait, alors pour reprendre cette phrase de saint Thomas d'Aquin qui disait « Je crains l'homme d'un seul livre, eh
Ouais.
bien je crains l'improvisateur d'un seul coach.
Voilà, ouais.
» Voilà, ne restez pas tout le temps avec le même prof dans la même
Même s'il est
structure,
super, en fait,
bien
parce
sûr, et
que.
d'autant plus s'il est super, c'est pas une infidélité que d'aller voir ailleurs en impro, hein. Calme-toi, je pose ce couteau.
Je n'ai rien dit, je n'ai rien fait, c'est dans ta tête.
Non, non, mais allez faire des stages, allez découvrir d'autres choses, soyez au taquet sur si des improvisateurs étrangers viennent en France, il y a des choses folles.
Faire des stages,
ouais. Voilà, moi je suis allé faire Timor, Jobil, c'est nouveau, en fait c'est différent, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de faire, et rien que pour ça c'est exceptionnel, donc à plus petite échelle, aller prendre un cours avec quelqu'un que vous n'avez jamais eu en prof, bah, c'est trop bien. Ça, vous découvrez une nouvelle chose. Moi, par exemple, pour une expérience personnelle, ce que j'adore dans le format, dans Minimas, par exemple, c'est qu'on fait tourner un peu beaucoup les cours entre nous. En fait, on se fait des séances entre nous, ne serait-ce que parce que quelqu'un va dire « Ah tiens, j'ai repéré que ce serait bien qu'on travaille un petit peu ça. » Et du coup, bah, c'est trop bien. C'est des gens, bah, par exemple, Luc Mouret, que j'adore, et je n'aurai jamais le temps ni l'occasion d'aller faire un stage avec lui, alors que quand on se fait un petit atelier entre nous et que c'est Luc qui le dirige, je suis trop content de voir Luc donner cours et de travailler avec lui là-dessus, et c'est trop bien. Donc c'est pour ça, aller récupérer des choses qui apprendre avec tout le monde, et c'est en ça que vous allez pouvoir devenir polyvalent. Très très beau mot pour
finir cette question. Congratule.
Ouais, faut bien que quelqu'un le fasse.
C'est l'émission de tous les règlements de compte. Oui.
Et notre fils est endormi, donc plus de...
Pour l'instant.
Pour l'instant, ouais. Un réveil en pleurs à un moment donné. Question suivante, ça te va?
C'est la question?
Oui.
Ouais, écoute, ça me va.
La question suivante nous vient de Thibaut, qui nous demande si on compte faire des émissions au public. Et pour ça, j'ai aussi une réponse de Muriel Ekovich.
Oui.
Voilà. je fais un patchwork. Elle a fait un patchwork de réponses que j'utilise un peu.
C'est très très drôle.
Alors, ça aussi, on va parler d'un sujet. Les émissions en public, c'est prévu depuis un petit moment. On a très envie d'en faire depuis un moment. C'était d'abord un peu arrangé avec l'improvibar pour en faire. Et puis,
je salue Romuald parce qu'on l'a planté comme
deux fois.
Nullos.
Ouais.
Parce qu'on a
mais
eu des changements
de planning.
Deux
très bonnes raisons.
Oui.
Non, il y a eu des affaires personnelles de santé en fait, qu'on a dû les annuler. Et en fait, donc on y pense, on a très très envie de le mettre en place. Le problème, c'est que ça demande une logistique, mm-hmm. c'est que nous, on a du matériel à déplacer. Donc c'est pas mal de choses qu'il faut transporter à mettre en place. J'ai une bonne heure d'installation. Je vais dire j'ai, parce que toute la technique, c'est moi qui m'en occupe. Mais voilà, il faut une bonne heure d'installation et une bonne demi-heure à la fin de désinstallation et de rangement. Donc ça déjà, pour prendre un créneau, c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'on prend un créneau de 2-3 heures, même plus, c'est 4 heures. Le temps d'arriver, de s'installer, de faire l'émission, de l'arrêter, tout ça, c'est un gros gros créneau. Donc ça, ça peut être handicapant. Et voilà, mais sinon, nous, on est opérationnel. Il me semble qu'on a convenu une date pour à la rentrée, à l'improvibar encore.
En tout cas, on est en réflexion, il faut qu'on valide.
Voilà, il faut qu'on valide ça pour essayer de le faire. Voilà, on est chaud pour ça. On va tenter. En fait, l'improvibar va nous servir aussi pour l'essayer, parce que c'est nouveau de gérer du public, c'est trouver des nouvelles choses. Mais après, oui, nous, après, sur le long terme, si on peut se déplacer avec notre matos et aller faire des émissions à droite à gauche.
En fait, on pensait surtout utiliser cette version-là en live pour les festivals d'impro. On trouve que c'est intéressant de peut-être déplacer le catering dans ce cadre-là et de faire peut-être des émissions plus courtes, mais avec plus d'invités, et avoir un lieu ou un rendez-vous en fait pendant les festivals,
oui.
où les gens se disent « Ok, on a vu les spectacles d'un tel et un tel, et maintenant on va les découvrir au sein du catering. »
D'ailleurs, je rebondis parce que la question d'après, qui est tombée juste avant qu'on commence l'émission, d'un anonyme qui nous dit « Comptez-vous faire une tournée hors Paris pour aller à la rencontre des lieux d'improvisation ? Exemple, l'improvidence de
D'accord,
Lyon
exemple.
Ou Bordeaux. » Donc oui, le but de nous, de s'entraîner à faire ces émissions en live, ça sera après de les déplacer. Par exemple... On a parlé, je ne sais pas si je outrepasse sur des questions qu'on a après, mais moi je sais que j'aimerais beaucoup aller faire une émission avec Christine et Christophe de l'ImproCamp, qui sont dans le sud. Mais voilà, ça nécessite de se déplacer avec le matériel, de faire tout ça, la gestion du live aussi, parce que si on est sur scène, on ne fera pas de live, mais si on se déplace à un festival pour faire une émission, là par contre on aimerait bien faire le live aussi. Donc voilà, c'est plein de petites choses qui sont à mettre en place. Et pour ça, la meilleure chose, c'est de nous contacter. Vous envoyez un message à Jeanne et moi en disant voilà, pour ce festival-là,
au catering directement,
on aimerait bien essayer de s'organiser. Et en fait, nous, on est motivés, donc on va vous proposer des solutions pour essayer de faire en sorte que ça se fasse. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pour nous, il faut que ce soit facile aussi. Donc, on va trouver une solution pour que ça fonctionne. Et si ça fonctionne, nous, on vient avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous en parler si vous avez des projets.
Bah, l'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est vous avez un groupe d'impro et vous voulez prendre un stage, que ce soit avec Baptiste ou avec moi, voire avec les deux. Vous organisez ça et en même temps, on en profite pour se faire au moins un catering pendant le week-end ou autre. Ça, ça peut être jouable aussi, puisque du coup, on a un déplacement qui est quand même plus rentabilisé pour
tout
nous.
Tout à fait. Et aussi, voilà, je rebondis sur un truc qu'on n'a pas dit sur comment on choisit les invités. On n'est pas à... C'est ce qu'on dit avant chaque invité. À chaque invité, avant chaque émission, on leur dit on ne vous invite pas en tant qu'expert dans l'impro, on n'est pas là, même si on a invité des gens qui peuvent vous sembler être des figures importantes de l'improvisation, on n'est pas à vouloir inviter que des improvisateurs de ouf et très célèbres. On a une vraie ambition de parler de l'impro sous toutes ses formes. Et on a fait une super émission avec Mathieu Ancelin et Magali Kiliko, qui sont certes investis dans la vie, notamment dans le groupe Impro France, mais qui à la base sont des gens qui font de l'improvisation dans le côté entre guillemets amateur noble de la chose. Et c'est hyper intéressant de parler avec des gens qui ont un métier à côté, qui sont pas juste improvisateurs professionnels et tout ça.
Oui, nous on et s'en donc, fout vraiment de savoir si tu as 15 ans d'impro. Par ce moment où tu as une expérience d'impro et que tu as des choses à partager, pour nous c'est intéressant dans le catering. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ouvert aussi à des gens qui ne pratiquent que très peu l'improvisation dans leur,
tout à
dans
fait.
Leur art.
Question suivante. On a Nico J, que je suppose être Nicolas,
Nicolas
Jauregui, bien sûr.
Bisous Nico.
Qui est donc déjà venu, qui nous a posé 4 questions. Tout d'abord, la première question, qui est une question pour moi, il demande, Baptiste, comment tu trouves tes idées de jeu dans l'émission? Et ça, bah pareil, j'ai une réponse d'un grand Manitou de l'impro qui n'a pas le droit de prendre la parole en public normalement. Donc il se fait passer à travers un interlocuteur. Donc c'est Vincent Ronsac qui nous transmet les paroles de Monsieur Sir Thierry Frochet.
Ah.
Bonjour, je suis Thierry Frochet et je me permets d'intervenir car une question a été posée au Catherine. Baptiste, comment trouves-tu les jeux pour ton émission? Eh bien, écoutez, c'est très simple, la réponse est il plagie. Voilà, j'ai écrit un livre il y a de cela quelques années, 1000 jeux d'impro originaux et hilarants aux éditions Frochet. Et évidemment, Baptiste pioche allègrement dedans, mais comme la plupart des spectacles d'impro qu'on peut voir ici en toute la France. Et ça ne me dérange pas en même temps, j'ai écrit ce livre pour porter la bonne parole, mais ce qui me dérange le plus, c'est que mon nom ne soit pas mentionné quand il fait état de ses jeux. Donc voilà, donc Baptiste et Jeanne, si vous pouviez un petit peu, voilà, ce serait une courtoisie. Sinon, je vous embrasse, Jeanne et Baptiste, ainsi que tous les auditeurs et auditrices, et surtout les auditrices du Catherine. Merci beaucoup.
Sacré Thierry.
Pour ceux qui ne connaissent pas Thierry Frochet, eh bien c'est pareil, on vous invite à réécouter le catering de Grisha et Vincent.
Oui, tout à fait.
Voilà, même Tim Orr connaît Thierry Frochet.
Et il respecte Thierry Frochet, puisque c'est son père.
Alors, pour aller plus loin, moi je peux quand même dire, puisque tu ne vas pas le faire, que tu t'es largement inspiré d'un podcast qu'on adore tous les deux, que tu m'as fait découvrir.
Ah, le Floodcast.
Le Floodcast.
Bah, si, on l'a dit assez souvent.
Ouais, mais on peut le redire là, vu que la question est posée.
Bien sûr. Déjà, sur le processus de création, je m'inspire beaucoup des invités qui viennent. Par exemple, quand on parlait, Meng et Polo sont venus, je sais que les deux sont férus de jeux vidéo, donc j'ai eu l'idée de faire ce mélange jeux vidéo-spectacle d'impro. Voilà, je vois ce que m'inspirent les invités en face, et puis je crée. Et ensuite, sinon, oui, mes inspirations, elles sont un peu partout. Souvent, je le dis, quand c'est un jeu qui vient du podcast, j'ai pris des fois des jeux dans Un Bon Moment aussi, le podcast de Ken Kojandi et Navo. Des fois même à la télé, à la radio, j'entends un jeu à la radio qui me fait beaucoup rire, notamment le jeu que j'ai fait sur notre émission sur le beatbox avec Prishia et Sidi, où ils font lire des paroles avec Google et ils mettent un langage particulier pour que ça déforme. Je crois que j'ai entendu sur RTL ou France Inter ce jeu-là, j'ai trouvé ça très rigolo. Donc voilà, soit j'ai une idée de jeu et je la colle dans un coin d'un fichier et je la réutilise quand ça me plaît, soit les gens m'inspirent quelque chose.
Puis des fois on cherche tous les deux aussi.
Des fois aussi on cherche tous les deux, je trouve pas et on pose des questions pour essayer de trouver petit à petit. Voilà, et puis aussi on le fait avec Jeanne en collaboration dans le sens où moi, si c'est un jeu qui nécessite plus des réponses, Jeanne va faire quelque chose de plus improvisé. Alors que si moi, ça demande de jouer un peu plus, Jeanne va aller sur autre chose. Enfin, voilà, on travaille encore en équipe pour que l'émission soit assez variée. Voilà, j'espère que ça répond à la question sur comment les jeux sont choisis. Et encore une fois, si vous avez des idées de jeu, envoyez-les. Je suis preneur. voilà. Question suivante, toujours donc de Nicolas Jorigui. Quelle est la meilleure recette que nous avons fait en fin d'émission? Alors, oui, parce qu'il faut
déjà remettons les choses dans leur contexte.
Bien sûr. Quand on fait une émission à Catherine, en général, on essaye d'enregistrer en fin de journée, donc vers entre 19h et 21h. Et en sortant de l'émission, on invite nos invités à dîner avec nous sur un magnifique repas fait maison par Jeanne Chartier, faut le dire. J'ai dû en faire 3, je crois, de repas au total sur tous les caterings, sur 30.
C'est pas mal.
C'est un dixième. Franchement, pas mal. Et voilà, pour remettre dans le contexte, c'est ça. Donc sachez que si vous êtes invité chez nous au catering, il y a un petit dîner.
Voilà.
Ou un déjeuner ou un goûter selon l'heure, mais oui, ça arrange toujours pour que ça grignote, ça reste le catering.
Oui, parce que les seuls où j'ai pas fait à dîner, c'est Thomas et Kevin. Et je ne sais plus pourquoi.
Parce qu'ils ne pouvaient pas rester. Donc, on a mangé pendant.
Voilà, c'est
Il y a Julie et G. Où pareil, on avait fait des pizzas et on a dit, oh, faut arrêter, on mange trop pendant, ça s'entend.
Ouais, ouais.
C'est devenu après. Et il y a aussi, il y a JB et Papy, à qui on n'a pas fait à dîner parce qu'on a été pris par le temps et on n'avait pas le temps de leur faire un dîner. Alors, on les a invités au resto.
Oui, c'est vrai.
C'est le privilège, JB et Papy. Dans un beau resto, en plus.
Ouais.
La chance qu'ils ont eue. Mais en même temps, soyez JB et Papy, quoi. Il y aurait dû... Le repas n'est pas au niveau de la réputation, évidemment. On a une réponse de quelle est la meilleure recette qu'on a faite de Sophie Brossard. Est-ce que tu veux l'écouter?
Ah mais oui, moi je découvre toutes les réponses.
Bah, je sais bien.
Alors, pour la question, quelle est la meilleure recette que Jeanne et Baptiste ont préparée à leurs invités? C'est sans hésiter les délicieux et originaux et incroyables champignons au tarama. Pour vous donner une idée, c'est des champignons, mais pas n'importe quel champignon. Des champignons de Paris, frais, bruts, juste des champignons qui sont eux-mêmes, quoi. Et on enlève la petite queue. Magie de la nature, le champignon se transforme en petite coupelle que l'on remplit alors de tarama. Pas n'importe quel tarama, du tarama du Auchan de Bagnolet, un tarama vrai, un tarama urbain, un tarama qui sait qu'il est un tarama. Et magie de la nature, c'est exactement la quantité de tarama qu'on veut qui va dans la petite coupelle faite par le haut du champignon. Et c'est juste simple, c'est bon, ça change la vie, quoi.
Ah, je suis très touchée hein,
oui,
de ce descriptif très précis.
C'était magnifique.
De ce petit apéritif.
Ça m'a redonné envie d'en manger.
Que l'apéritif.
Oui, c'est que l'apéro. Et moi, sinon, mon plat préféré que tu as préparé, après, c'est un de mes plats préférés que tu fais en général et tu l'as fait une fois, c'est le poulet coco cacahuète avec du riz. Celui-là, j'aime bien. C'est mon petit.
C'est ton petit.
El famoso. Si.
Mais moi, je dirais quand même que ceux qui ont eu la chance de goûter tes lasagnes au saumon ont été bien choyés.
Oh, merci.
Elles étaient délicieuses.
Ah oui, je les avais bien réussi. Voilà, c'est une question simple, avec des réponses simples, ça suffit. Hein.
Mais c'est vrai que je dois avouer aussi que j'ai servi une fois ou deux des frites au four de chez Picard à la graisse de canard qui ont fait leur petite impression.
Tout à fait. Ah, pardon.
J'ai pas de friteuse à la maison.
Je viens de repenser des personnes à qui on n'a pas fait à dîner. C'est Antoine et Andy, à qui on s'est fait livrer Uber Eats juste avant, parce qu'ils ont débarqué à 13h, et on s'est fait livrer Uber Eats.
Ah oui, c'est
voilà,
vrai.
Ça, on ne leur a pas fait non plus. Voilà, ouais. Non, mais on dit tous les petits secrets de tournage.
Et moi, je vais dire que j'ai toujours passé un super bon moment après, qu'on a eu des fous rires incroyables. On est vraiment désolé pour vous, parce que, évidemment, les conversations, elles continuent. Et on avait souvent des frustrations aussi, parce que d'autres anecdotes sortaient.
Oui.
Des anecdotes incroyables, des trucs mais vraiment magiques, et on peut pas revivre les moments. Un moment passé, ça on le sait en impro, il est passé.
Ah, bien sûr.
Et donc on a eu des dîners vraiment super et aussi des dîners pleins de confidences. Je me souviens notamment d'un dîner qu'on a fait sur la terrasse dehors avec Guano
et
Mathias, qui était vraiment super.
Oui, et puis des moments comme vous avez l'exemple à la fin du podcast avec Muriel et John. Je coupe générique de fin et Muriel qui nous dit, alors qu'on est encore assis, hein, oh mince, j'ai pas raconté l'anecdote où je rencontre Jamel Debbouze.
Ouais.
Et bah pardon, mais on a rallumé, du coup elle est dans le podcast, elle est après le générique, mais dites-vous qu'on a eu des révélations comme ça, Genre, je crois que c'est Poloche qui me dit « Ah mince, j'ai pas raconté la fois où les flics m'ont empêché d'entrer sur scène.
Oui. »
Et c'est des histoires, mais tu dis « Mais quoi ?» Et
on Juan a, aussi.
Juan, oui, oui, son escape et tout.
Son escape game.
Fantastique. Enfin, voilà, donc il y a un vrai ce moment de partage après l'émission, c'est toujours un plaisir aussi et ça, c'est un régal. C'est pour ça qu'on continue aussi de faire ça. C'est les moments tout autour.
Ouais, c'est le rituel qui, pour moi, est un peu essentiel. Enfin, j'espère qu'on le maintiendra, mais le principe, c'est pas de faire que ce moment d'émission avec la rentabilité d'avoir une émission en podcast. C'est de profiter d'un vrai moment avec des gens qu'on apprécie ou qu'on découvre. Parce que finalement, on a dîné aussi avec Antonin et Patrick, qu'on ne connaissait pas et qu'on a découvert. Et il y a une forme de détente aussi qui s'installe quand il n'y a plus de micro. Même si je pense sincèrement que tout le monde oublie les micros au bout d'un moment dans le catering. Et c'est ça qui est chouette. Mais au repas, il y a encore une autre ambiance, quoi.
Et même quand on a invité pour le beatbox, Sidi, tu le connaissais pas du tout. Prisha, tu l'avais rencontré une fois parce qu'elle faisait l'improvisor. Le concours qu'on a fait quand Lucas est venu avec Malou, t'avais jamais rencontré Malou. Voilà, on a fait des. La semaine dernière, Régina, je l'avais jamais rencontré. Ouais. Et voilà, il y a des moments où aussi, c'est aussi des rencontres et des trucs comme ça. Donc, c'est des moments à partager qui sont.
Il y a un soir où vous avez dîné sans moi.
Oui,
j'étais vraiment au plus mal, j'étais enceinte et j'étais trop malade.
Bah, l'émission avec Mathieu et Magali.
Ouais, j'en suis vraiment navrée. Si ils nous écoutent encore, c'est pour moi, c'est un des gros regrets, ça. Voilà,
un peu pour répondre à la question. Encore une question de Nicolas. Quels invités vous admiriez le plus avant de le recevoir ? En fait, moi, je dirais que c'était Patrick Devalette et Antonin Morel, parce qu'on ne les connaissait pas du tout.
Alors, pas pour moi, ça, c'est pour
non,
toi.
Non, mais pour moi, c'est pour moi. Parce que donc, Patrick, il fait donc partie des Chiches Capons. Voilà, c'était des personnes que j'étais très, très heureux d'inviter et discuter. Parce qu'après, pour le reste, en fait, c'est que des gens, c'est tous des copains ou des gens avec qui on s'entend très bien, donc ça a été toujours un plaisir. Mais c'est vrai qu'avec Antonin et Patrick, il y avait un côté, on recevait quand même
deux pointures
du clown, et c'était, il y avait un côté, j'étais très heureux de les recevoir, mais plus pour le rayonnement qu'ils apportaient et l'histoire qu'ils avaient avec eux. Mais sinon, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Brigitte Lecordier aussi, très très content de la recevoir ici. Sidi, c'est un très bon copain, mais c'est un beatboxer exceptionnel. Et puis même tous les improvisateurs qui sont venus, qui sont des gens que j'adore et que j'étais très content de recevoir. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit côté avec Patrick et Antonin que je connaissais pas avant, qui m'a fait vraiment plaisir de les recevoir.
C'est pas la question. La question, c'est
qui vous admiriez le plus avant de recevoir. Si, mais c'est ça.
Il y a
un côté, ils amenaient.
Parce que moi, par exemple, Antonin, je ne le connaissais pas. Je n'avais même pas, en fait, envisagé quel était son poste. Après, quand effectivement on a découvert qui il était, c'est sûr que tu as une admiration pour le travail de la personne. Mais la personne en lui-même, on ne la connaissait pas. Maintenant, on l'apprécie beaucoup parce qu'on l'a rencontré. Mais moi, ma réponse, elle est plus sur JB et Papy. C'est ces deux personnes que je suis et que je côtoie depuis des années. Sous des formes différentes, dans des expériences différentes, mais c'est deux personnes, parce que JB, il est incroyable, c'est vraiment l'homme de l'ombre par excellence, et des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Il le disait, Alain, sans lui, il n'aurait rien fait. C'est lui qui a mis en place tout. Alain, il ouvre les portes. Après, c'est JB qui fait le taf. Et je trouve que c'est un binôme formidable, incroyable. C'est un truc de cinéma américain. Pour moi, c'est James Bond et son... Comment on appelle ça, là ? Celui qui lui file tous les...
M.
Et M, voilà.
Non, M, c'est là-bas. C'est K qui lui file.
Voilà,
les...
c'est James Bond et K, pour moi.
Bonjour, c'est Baptiste qui fait le montage depuis le Festival d'Avignon. On le sait que c'est Q, juste on s'est trompé, voilà. Bisous, bonnes vacances.
Et de les recevoir comme ça, avec en plus autant d'amitié, moi ça m'a vraiment ému. J'ai partagé des moments parfois un peu difficiles, accompagnés par papy quand je faisais cette télé-réalité là à Miami. Donc on s'était.
Excuse-nous.
Non, mais c'est pas ça l'idée.
Non, je sais, mais la phrase est très drôle parce que quand je faisais cette télé-réalité à Miami.
J'ai vachement dit comme ça. Donc tout ça pour dire que c'est des gens que je vois pas beaucoup mais que je respecte énormément, et donc les avoir là à la fraîche avec nous pour le catering, à partager tout ce qu'ils ont à partager d'expérience, une fois encore, on n'a pas besoin d'être sur scène tous les soirs pour avoir des choses à partager, c'est plutôt des gens qui accompagnent les autres, et donc en ça, moi je trouve que c'est, c'est deux personnes incroyables. J'étais un peu stressée, intimidée, malgré l'amitié qui nous lie.
tout à fait. Bah voilà, j'espère que ça te plaît, mon Nico. Dernière question de Nicolas. Y a-t-il un corps de métier pas encore passé dans l'émission et que vous souhaiteriez inviter particulièrement ? Et pour ça, j'ai une réponse de Jonathan Chaboissier qui est de là.
Qui me paraît intéressant, ce serait d'inviter des militaires et des militaires qui ont l'habitude d'être sur le terrain, en mission, parce que forcément, il y a une part d'imprévu, d'incertitude. Et comme les militaires, j'imagine, sont dans une sorte de rapport au risque assez extrême, bah, j'aimerais bien savoir un peu, eux, quelles sont leurs clés de réaction à l'imprévu et à l'incertitude, et en faisant bien sûr l'hypothèse que ça retomberait sur les mêmes que les improvisateurs. Mais du coup, comment gérer l'improvisation sur le terrain en tant que militaire ? Oui, je suis le colonel Johnson de l'armée de terre. Et bien sûr que nous improvisons. Sur le terrain, nous avons besoin de nous adapter aux incertitudes, aux risques. Et nous devons le faire en utilisant des clés comportementales exceptionnelles, telles que l'analyse de la situation, l'acceptation des données et l'apport précisionnel à partir de ce qui nous vient en respectant ce qui s'appelle le cercle des attentifs. Voilà. Et ce qui est le plus important à l'armée, c'est de poser une bonne plateforme. Surtout des plateformes pétrolières.
Oh mon Dieu. C'est très bien fait. Bravo, Jonathan. Oui.
Et voilà. C'est un super accompagnement pour une très très bonne question. Oui, évidemment, il y a plein de corps de métier qu'on aimerait inviter pour parler de... déjà, j'ai envie de répondre tous, en vrai. N'importe quel métier serait intéressant à découvrir. Mais c'est vrai que là, les militaires, c'est un truc auquel je n'avais pas pensé. Ce serait rigolo.
Oui, on pourrait aussi inviter des chefs cuisiniers. Tu vois, parce que tu sais pas, quelqu'un qui te demande par exemple, je veux pas de telle garniture ou je suis allergique à tel truc, il faut que tu refasses les plats. Je pense notamment dans des restaurants assez exigeants comme des étoilés, ça serait chouette qu'on ait ce genre d'invité.
De toute façon, n'importe. En fait, c'est l'avantage de ces questions sur l'improvisation, c'est que n'importe quelle personne pourrait être intéressante. Parce qu'on improvise tout le temps dans la vie et c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est de découvrir c'est quoi les moments d'impro de ces personnes-là. Après, ouais, les métiers, la cuisine, ce que vous entendez en fond, c'est un biberon qui se mélange parce que elle se réveille et il va falloir bientôt la nourrir, je suppose. Voilà, qu'est-ce qu'on avait en tête aussi
Dans le circuit artistique, on n'a pas encore fait complètement le tour non plus.
Ce qui est bien dans le circuit artistique, c'est que comme je disais, n'importe quel artiste, on peut voir à quel moment, quelle est sa part d'impro dans sa vie, sa carrière.
Mais on n'a pas invité de seul en scène particulièrement.
Non,
on
de danseur.
De danseur, de metteur en scène.
De réal, voilà.
Musicien, compositeur de musique. Peintre, on n'a pas. Je pense qu'on a encore énormément de possibilités face à nous. Et ça, c'est super chouette.
Oui, et puis comme on disait au début, c'est surtout des amis, des gens qu'on connaît, donc voilà, il faut aussi qu'on ait les gens auprès de nous.
Ouais, il me semble que tu voulais inviter aussi, mais peut-être viendront-ils ou pas, des gens qui font du jeu de rôle.
Oui, je suis en train d'essayer de voir avec La Bonne Auberge, qui est un podcast dont j'ai déjà parlé, qui fait du jeu de rôle, du Donjons et Dragons. Et en fait, on en avait un petit peu abordé avec Rouen quand il était venu, mais le jeu de rôle, c'est vrai que c'est assez proche de l'impro. Hein, t'as ton personnage, tu t'y tiens. Et c'est vrai que du coup, j'aimerais faire une pierre deux coups en invitant La Bonne Auberge, qui est un podcast qui est quand même assez connu. Donc voilà, parce qu'il faut aussi qu'on s'attire du monde. Et c'est en train d'être en négociation pour la rentrée, pour que ça puisse se faire. Mais voilà, c'est plein
Je me dis aussi des journalistes, tu sais, sur le terrain, quand il se passe des choses, quand tu dois meubler.
Oui. Des présentateurs télé, ouais. Tout ça, c'est des trucs, on a envie de voir qu'est-ce qui n'est pas prévu. Voilà. On est ouvert. Nous, on fait comme ça s'organise.
Et puis oui, une fois encore, si vous avez des idées, des envies, nous, on lit tous les messages Instagram, Facebook. Donc allez-y, envoyez-nous des messages et on discute, on échange.
Et si vous nous écoutez, que vous n'êtes pas improvisateur ou que vous êtes improvisateur, mais vous faites un autre métier à côté, notamment, ouais, ce qui était intéressant quand on a invité Mathieu, c'est de parler du côté, il est prof de psychologie, Mathieu. Et c'était hyper intéressant de voir le lien entre l'impro et tout ça. Quand Timor et nous parlait de son passé de coach de basket, ça aussi c'était hyper intéressant. Donc si vous avez un métier à côté ou si vous ne faites pas d'impro, que vous avez un métier, que vous avez envie d'en parler, venez, vous êtes les bienvenus, parlez-nous-en. Question suivante. Thomas Vieublé, le foufou.
Salut Thomas.
Qui nous dit... Tac. Il nous demande le secret de notre beauté.
D'accord, c'est pas une question ça.
Alors déjà, c'est toi qui es beau mon pote. Okay. Et pour ça, j'ai deux réponses à proposer. Déjà, j'ai un vocal surprise. Parce que tu n'es pas au courant que j'ai. J'ai posé la question, quel est le secret de notre beauté ? J'ai posé la question à mon père. Et voilà sa réponse.
Fous-moi la paix avec tes questions à la con.
Voilà.
Le Gérard Jugnot du Portugal. Remets-le, s'il te plaît, juste pour le plaisir.
Fous-moi la paix avec tes questions à la con.
Ah, c'est génial.
Et j'ai une autre réponse aussi de Valentine Nogalo.
150 g de farine, 125 g de beurre, 150 g de sucre en poudre, 800 g de fruits rouges, de groseilles, de fraises, de framboises. Vous avez deviné ? C'est la recette du crumble fruits rouges. C'est aussi la recette beauté de Jeanne et Baptiste. C'est chaud, c'est fondant à l'intérieur et ça croustille à l'extérieur.
Génial, merci Valentine. Voilà. Valentine fait partie de ces gens que je connaissais, que je côtoyais dans les bars. Sûrement ça vous est arrivé aussi. Et... En fait, il y a des gens comme ça que tu croises et puis tu papotes, mais toujours un peu... Pas que tu as des choses superficielles à te raconter, mais tu n'as pas le temps, le cadre ne se prête pas. Et quand elle est venue faire ce catering avec nous, avec le dîner et tout ça, on a pu vraiment approfondir notre lien et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Voilà.
Oui.
Donc je le dis.
Oui, il fait partie de ces personnes très sympas que tu croises par événement.
Oui, et puis tu c'est pas que tu veux pas aller plus loin, c'est que l'occasion ne fait pas le larron, comme on dit.
Oh, c'est beau.
C'est une belle expression
française.
C'est
une très belle expression. Bien sûr. Et donc, la vraie question de Thomas, qui est un soap-opéra improvisé de l'été avec une narration écrite comme Mystère à Saint-Jacques, vous brancherait-il ? Je vous vois bien faire ça. Et elle rajoute, vous êtes des hosts incroyables, en plus d'être des personnes douces et adorables. Continuez tout ça avec la même énergie. C'est un de mes êtres humains préférés. Alors, c'est une très bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Mystère à Saint-Jacques, c'est... Il fait partie des choses qui ont un peu mis en place le catering. Parce que quand j'écoutais Mystère à Saint-Jacques, je me disais, oh, mais on serait parfaitement capable de faire un truc comme ça. Je crois qu'on en avait parlé, en plus, c'était vraiment au tout début, en disant avec tous les improvisateurs qui font déjà un peu de voix, donc notamment l'équipe du Grand Redoublement, tu vois, Guillaume Darnaud, tout ça, proposait de faire un truc comme ça. Et en fait, en transformation, c'est devenu après plus tard, on est revenu sur cette envie qu'on avait de créer un podcast qui parle d'impro déjà, qui est le catering. Mais oui, en effet, c'est un truc qui trotte. Après, c'est comme tout, c'est du temps,
c'est de
l'organisation. On a déjà un podcast sur des histoires improvisées, bon, qui est certes pour enfants, qui est la tête dans les histoires. D'ailleurs, petite parenthèse, on a atteint aujourd'hui les 3 millions d'écoutes.
C'est incroyable.
Voilà, c'est fantastique. On en reparlera un peu à la fin d'émission, j'ai prévu d'en reparler un petit peu, mais voilà, c'est trop bien. Mais oui, ça demande du temps. Faudrait aussi que ça dure sur la longueur, d'essayer de faire ça dans quelque chose de plus... voilà, qui serait peut-être un moyen de toucher un peu plus le grand public plutôt qu'un talk show qui parle d'impro. Quand tu connais pas, c'est vrai que ça peut faire peur, surtout les émissions de 2 heures. Donc on va voir.
Et du coup, peut-être pas pour cet été, mais peut-être pour le courant de l'année, si on arrive à s'organiser comme il faut.
Peut-être que si à un moment donné, le catering va nous lasser, on n'aura plus envie de le faire ou ça
oui,
prend un
c'est
peu plus de temps.
Oui, c'est possible.
On verra. Mais oui, en tout cas.
Il faut profiter pendant qu'il est encore
c'est
là.
C'est une très bonne question, Thomas, puisque c'est quelque chose qu'on a en tête, évidemment.
Et du coup, ça nous replonge dans la réflexion.
Tout à fait.
On va y penser cet été, les pieds dans l'eau. Et puis on te dira notre réflexion.
Oui, on va faire ça. On a question suivante, on a Lia qui nous demande des conseils pour mieux réussir à s'imposer en impro, sur scène et dans le milieu. Et elle rajoute, changez rien, vous êtes trop fort et vous mettez du soleil dans mon quotidien, bisous.
Oh, merci Lia.
Merci Lia. Je ne sais pas si je sais qui tu es, mais je ne crois
pas.
Mais voilà.
On peut l'embrasser quand même.
Oui, on
t'embrasse,
merci beaucoup. Et pour ta réponse, on a... pour ta question, pardon, on a plusieurs réponses. On a d'abord, je ne vais pas le citer puisque vous allez reconnaître sa voix tout de suite.
Donc, d'essayer de répondre à la question comment mieux s'imposer en impro, dans le milieu de l'impro et sur scène, je pense que la réponse c'est de ne pas essayer de s'imposer, ne pas essayer de réussir, ne pas essayer de faire quelque chose de fou, de dingue, d'extraordinaire, de de juste faire son chemin, croire dans ce que tu fais, surtout faire en sorte que toi tu fais quelque chose qui te plaît à toi, après que si ça plaît aux autres, bah, c'est le problème. Hein. Et partir de là, bah, essaye de tranquillement faire ton chemin, mais ça sert à rien d'essayer de s'imposer ni d'essayer de réussir, tu vas juste être frustré et ça va forcément être un frein. Donc ne sois pas, fais ce qui te plaît.
Voilà.
Génial.
Merci beaucoup à Darren Tulette de nous avoir fait écouter ça.
Et évidemment, c'est Mark Jane
bien
qui
sûr.
Répondait à cette question et avec beaucoup d'intelligence. Je suis tout à fait d'accord avec son propos.
Oui.
Je pense que quel que soit le milieu, en fait, là on parle même plus d'impro, vouloir s'imposer quelque part, c'est aller en force, c'est aller à l'encontre de quelque chose de doux, en fait. Mais peut-être que sous cette question, il y a peut-être un ressenti d'exclusion, un ressenti de ne pas trouver sa place.
C'est ce que je veux dire. Alors peut-être s'imposer sur scène, c'est difficile. Peut-être apprendre à ne pas se faire marcher dessus. J'ai pas le bon mot. Je pense que c'est ça.
Oui, parce
que
de garder des limites, en fait, voilà. Aussi.
Je pense que c'est ça, c'est de ne pas s'effacer. Je pense qu'il faut apprendre à ne pas s'effacer sur scène. J'ai d'autres vocales à faire écouter. Peut-être on les écoute tous et on en discute après.
Oui.
Allez, on fait ça. Le suivant nous vient de Cyprien Chevillard.
Chevillard.
Le prochain nous vient de Cyprien Chevillard.
Chevillard.
Le prochain. Je vais être obligé de le laisser tel quel. Hein. Le prochain nous vient. Franchement, Cyp, tout est trop compliqué. Le vocal suivant, déjà c'est plus simple. Le vocal suivant nous vient de Cyprien Chevillard.
Oui.
Oh.
Réponse à la question des conseils pour mieux réussir à s'imposer en impro, sur scène et dans le milieu. Je pense que paradoxalement, pour réussir à s'imposer en impro, il faut arrêter de faire de l'impro. Pour deux raisons. La première raison, c'est que je ne suis pas sûr que les gens qui ne fassent que de l'impro et énormément d'impro arrivent à s'imposer dans le milieu. Et deuxième raison, je pense qu'en dehors de l'impro, il y a des choses beaucoup plus intéressantes qui réussiront à nous amener autre part, par le mime, par le chant, par le travail du texte, de la danse. Je pense que ça fait de nous de meilleurs comédiens. Et je pense que c'est ce dont l'impro a besoin. Et comme disait Jean-Laurent Cochet, nous ne ferons bien ce métier que dans 10, 20 ans. Donc je pense que pour réussir à s'imposer en impro, si tel est le but de quelqu'un, il faut être patient.
Super réponse
Super
également
réponse.
De Cyprien.
Il y en a une dernière réponse de Muriel Ekovich.
Non.
Voilà. C'était pour plaisir. C'est bien.
Juste pour préciser qu'elle ne sait pas où tu mets ses réponses.
Bien sûr que non. Elle a tout. Elle a envoyé un
florilège.
Un QCM, un florilège. J'ai fait une rime en belle. C'était deux très belles réponses. Surtout que j'aime bien celle de Cyprien. Je trouve qu'elle va plus loin que celle de Marc dans le sens où, ok, ça sert à rien de vouloir s'imposer.
C'est les même... deux sont hyper intéressantes.
Oui, tout est hyper intéressant. Ça sert à rien de vouloir t'imposer, mais si vraiment tu veux plus de choses, voilà le chemin. Tu vois, et c'est
ça,
complémentaire
voilà.
En fait.
C'est la base et ensuite le travail. Donc ouais, ça joue. Moi, je vais peut-être essayer de faire une autre réponse puisqu'il y a déjà.
C'est
mal aux oreilles. Ah. Il y a déjà eu des réponses donc très bien faites par Marc et Cyprien sur ces thèmes-là. Mais si c'est un problème, comme je disais, de trouver sa place, je pense que déjà ça vient de soi, de se dire qu'on est légitime, que ce soit dans la troupe dans laquelle on est ou dans le spectacle dans lequel on est. Si c'est pas le cas, il faut en discuter avec ses partenaires de jeu, exprimer aussi son ressenti. Je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui gardent pour eux leur ressenti, notamment négatif, de positionnement ou de travail artistique. Et quand on est dans une compagnie ou dans un groupe, j'invite les gens à ouvrir beaucoup plus à la communication en interne. Je ne crois pas qu'on sera exclu si on dit je ne suis pas bien quand on fait ça ou j'ai besoin de plus de soutien quand on fait ci. À partir du moment où on prend aussi à charge de travailler à améliorer ses compétences ou ses peurs. Là, je ne vais pas donner de nom, mais je pense à une jeune femme qui est dans une compagnie et qui aurait tendance peut-être à trouver qu'elle peut être exclue souvent, que sa façon de faire n'est pas bonne. Et malgré le soutien de ses camarades, il y a comme ça un peu un cercle vicieux où elle retombe toujours dans cette logique-là. alors que je pense qu'il faut que ça vienne aussi d'elle. Et donc, je la prends en exemple, mais pour tout le monde, il y a un moment où, en fait, on peut pas être sauvé si on veut pas être sauvé, quoi.
Tout à fait. Et donc moi, pour répondre avec le côté réussir à s'imposer, donc comme je disais, sur scène, ne cherchez pas à vous imposer, cherchez à ne pas vous faire
effacer. Il faut donner envie, quoi.
Donner envie. Et pour dans le milieu, comment s'imposer ? Alors, comment s'imposer dans le milieu en impro ? Alors, je pense que la question, j'ai du mal à comprendre, c'est quoi le but de s'imposer dans le milieu ? Je dirais, moi, je comprends la question, comment montrer que j'existe, peut-être, ou un truc comme ça. Bah, en fait, si tu restes dans la continuité de ne pas vouloir t'imposer sur scène, de vraiment juste d'exister, de... que ton existence sur scène fasse grandir et évoluer, voilà, si t'arrives à atteindre ça, et ben cette chose là tu vas la faire dans plein d'endroits. T'essaies de t'inscrire dans les maestros,
ouais,
dans jouer à l'improvibar, tous ces endroits qui nous permettent de rencontrer beaucoup de monde.
Montrer que t'existes.
Voilà, faut montrer qu'on existe, parce que les gens ne peuvent pas avoir envie de jouer avec toi s'ils ne savent pas que t'existes. Donc,
oui, et s'ils t'ont pas vu jouer non plus.
Voilà, va jouer à droite à gauche, et je pense que c'est le mieux pour
Il y a aussi ce que tu fais, moi je le fais pas du tout, mais répondre, être actif sur les réseaux spécialisés d'improvisation, Impro
tout à
France
fait.
Et tout ça.
De se servir de tous les festivals, de se servir de tous les festivals, genre le WISE, là, qui est en ce moment, Guarec aussi, tous
aller
ces trucs-là,
stages,
aller prendre
des
stages, ça te permet de rencontrer des improvisateurs un peu partout en France, de différents niveaux aussi, ça c'est les bons moyens de faire connaître en fait, voilà, il n'y a pas à s'imposer, il y a juste à exister.
Et... Ouais, je reste aussi sur cette idée de donner envie en fait,
évidemment.
C'est un peu ce que je donnais dans l'exemple, c'est en fait, oui, on pourra toujours te reprocher plein de trucs, mais si ton moteur c'est de donner envie aux autres, il n'y aura pas besoin de s'imposer, il n'y aura
tout
pas
à fait.
Besoin de...
T'imposeras de toi-même.
Voilà, exactement. Et je voulais parler aussi de Cécile Huré, qui est l'improviconteuse, pour ceux qui la connaissent sous ce nom-là, qui, elle, faisait très très peu d'improvisation et que j'ai rencontrée une fois encore pour cette télé-réalité à Miami, et qui a décidé de faire beaucoup plus...
Je trouve que tu te la raques aussi.
Qui a décidé de faire beaucoup plus d'impro par la suite, et qui a monté ce projet-là, puis un deuxième projet cette année qu'elle a exposé au festival Impro en scène. Et c'est quelqu'un qui n'a pas attendu qu'on lui tende la main, qui n'a pas attendu de trouver sa place. Elle se l'est faite un peu toute seule. Donc certes, c'est un solo, l'improviconteuse, mais je pense qu'on peut le faire même avec des projets en commun. Donc voilà, je salue en tout cas la démarche de Cécile, parce que ça a fonctionné et qu'au vu de la question, pour moi, c'est quelque chose qui répond bien.
Merci beaucoup de ces précisions. Et donc, question suivante, qui est même la dernière question, qui est une très bonne question. On a Hugo qui nous demande, quel est votre premier souvenir sur scène, la première émotion, le premier moment où vous vous êtes dit, c'est pour ça que je veux jouer. Très belle question.
Tu peux la redire, s'il te plaît.
Alors, j'ai l'impression qu'il y a trois questions. Quel est votre premier souvenir sur scène ?
Voilà, on peut s'arrêter là déjà.
Allez, quel est votre premier souvenir sur scène ? Moi, je dirais que c'est mes premiers matchs d'impro, genre quand j'avais 8 ans à l'impro Théo. Le premier vrai souvenir net que j'ai, c'est j'ai joué avec, je crois que ça devait être avec Thibaut Mortelec. Voilà, je dis le prénom, le grand frère d'Agathe Mortelec, team Impro Théo. J'ai joué avec lui, c'était un mélange enfant-junior, et j'ai joué avec lui et j'ai décroché comme jamais. Et à un moment donné, je l'ai fait décrocher, et je sais pas pourquoi ça m'a marqué. De faire décrocher un plus grand que toi qui faisait de l'impro depuis longtemps, ça m'a marqué et je me suis souvenu. Et voilà, je crois que c'est mon plus ancien souvenir de scène.
Mais moi, si tu me demandes mon plus vieux souvenir de scène, c'est la fête de mon école.
Bah, c'est ça qu'on veut, nous.
Où j'ai dansé sur cette musique de film, là, les lunettes noires, là, comment il s'appelle
Blues Brothers.
Les Blues Brothers, merci. Voilà, je dansais sur les Blues Brothers. Voilà, c'est mon premier souvenir. Après, de vrais trucs.
T'as bien mangé, ma bébé ? Un petit rototo ?
Donc, ouais, je pense que mon autre souvenir le plus marquant et un petit peu plus adulte, c'est quand j'étais à l'école du One Man Show. Et qu'on a joué, on avait le théâtre du Bout, mais ça c'était une petite salle, mais un de mes souvenirs les plus marquants, c'est quand on est allé jouer au Café de la Gare. Là j'ai joué au Café de la Gare, il y avait mes parents qui ne viennent pas souvent me voir, donc là il y avait mes parents. Et donc ça m'avait bien marqué, c'était un moment assez fort, ouais. De jouer sur cette scène si jeune avec des reprises de sketch, et j'avais en plus très bien marché, donc c'était vraiment un beau souvenir.
J'ai un souvenir aussi jeune d'un match d'impro pendant une fusillade. Et c'était même Nicolas Jauregui qui était l'arbitre. Et il faut savoir que, étant jeune, j'étais un gros poisson dans une petite mare. C'est-à-dire qu'au début des matchs, on venait me voir pour me dire « Ça te gêne pas si on met quelqu'un en première étoile, égalité avec toi ?» C'est-à-dire qu'il savait, à partir de mes 10 ans dans ces eaux-là...
Ça va tes chevilles, toi ?
Non, mais j'y peux rien. Il savait qu'à la fin du match, j'allais avoir la première étoile. Et donc, il venait me voir en amont. Mais ça fait, c'est bizarre quand t'es enfant. Quand on vient de dire ça, genre, ça te dérange pas s'il y a quelqu'un d'autre qui est premier avec toi ? Et, enfin, sans avoir le truc de se la péter, mais...
Un petit peu, quand même.
Non, mais... En vrai, c'est une vraie conversation sérieuse de dire, tu te rends compte, t'as 10 ans.
Oui.
On vient de dire, toi, genre, imagine, tu cours le 100 mètres, et on vient de te dire, ça te gêne pas si le deuxième, on le met sur le podium avec toi ? Tu vois, il y a un truc... Ça fait bizarre d'entendre ça quand t'es enfant. Ça met dans une position assez étrange. Bref. Donc... Je voulais partager
mais
ça.
Tout ça, comme tout ça pour en arriver où, en fait ?
Pour en arriver à une de mes premières émotions aussi. Donc, Nicolas Jauregui, qui, du coup, pour les fusillades, voulait me foutre dans la merde et me mettre un mot que je connaissais pas.
Ah, mais ça, c'est sympa, ça.
Mais oui, c'est
Julie
sympa.
Julie Galibert, elle vit ça tous les jours.
Bah, je sais bien. Et donc, il faut se dire que j'ai peut-être 11 ans au moment, ou 10 ans, et il me dit arabesque. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Du coup, on est en fusillade, je me retourne, et la première chose que je dis, c'est salam alaikum. Et public qui rigole. Et ça, c'est un de mes premiers souvenirs aussi où je me suis dit, c'est quand même rigolo de faire rire les gens.
Et voilà, ça, c'est chouette comme anecdote. Resté.
Oui.
On n'avait pas besoin de savoir que tu étais première étoile avec quelqu'un d'autre hein, pour cette anecdote.
Mais je me confie.
Ah oui, tu te
confies. Je m'ouvre.
Tu te confies en te la pétant.
Non, je parle que, en vrai, c'est un sujet qui est important. C'est un sujet sensible.
Très sensible.
Bah oui. Tu grandis. Tu passes tes 10 premières années d'impro. Ça
veut dire que tu as été trop choyé, trop valorisé.
Bah, c'était un peu difficile. Quand tu arrives sur Paris, quand tu as passé 10 ans à voir tout le temps la première étoile,
ah,
quand
oui,
tu arrives sur
oui.
Paris, et que c'est ce que je dis. C'est pour ça que je disais chanson d'Orelsan, gros poisson dans une petite mare. Pour la référence, écoutez. C'est que ça, t'as un gros poisson dans une petite mare. Après, quand tu jettes dans l'océan, ça te fait un truc très bizarre. Voilà, moi, je voulais juste partager ce truc-là.
C'était un très beau partage.
Ouais, bah, tu te moquais. Pète pas les biberons, bébé, je te jure. Les biberons, les micros. Oh là, je suis fatigué. Fatigué, faut que j'aille dormir. Ensuite, le premier moment où vous vous êtes dit, c'est pour ça que je veux jouer. Alors moi, je sais que le moment où je me suis dit, ok, je veux faire ça de ma vie, c'était à ma deuxième année au cours Florent. En gros, dans ma tête, mes trois années au cours Florent, ma première année, c'était de me dire, je découvre le théâtre. La deuxième, c'était de me dire, ok, je veux faire ça de ma vie. Et la troisième année, c'était, ok, je veux le faire bien. C'est un peu comme ça que je sépare mes années. Et vraiment, ma deuxième année, j'ai un souvenir d'un cours avec Jérôme Duplex. Et je sais pas pourquoi, j'étais même pas en train de jouer. J'étais en train de regarder une scène, un truc, et je sais pas, l'ambiance de l'année, de devoir préparer des scènes tout le temps, de créer, d'être constamment dans cet état de création, je me suis dit, ah, franchement, s'il y a moyen de vivre de ça, ce serait quand même le paradis, quoi. Voilà, j'ai pas l'instant précis, mais je sais que c'est durant cette période-là où je me suis fait cette réflexion. C'est le bébé, hein. Ah, c'est pas nous, hein, c'est le bébé, il a... Ouais, je fais que péter, et... Sale péteuse, là. Donc, ouais, le premier moment où tu t'es dit, c'est pour ça que je veux jouer.
Bah, je pense que ça revient un peu à ce que j'ai raconté sur cette scène du Café de la Gare.
Mm-hmm.
Quand j'étais dans cette école, en fait, moi, j'ai fait les cours Florent, les jeunesses florentines. Je ne sais pas si ça existe toujours, de 14 à 17 ans.
Non, ça sonnait trop jeunesse hitlérienne, ils
un
ont
peu,
arrêté.
Ouais. Mais clairement, ça se disait comme ça. Hein.
Ouais.
Et du coup, c'est là que j'ai un peu vraiment ouvert mon amour au théâtre. Je travaillais pas énormément mes textes.
Bah voilà. Oui, c'est bien le problème. Bosse tes textes un petit peu.
Mais comme je m'en sortais très bien, justement, en improvisant un peu à la dernière minute, je passais toujours mes classes. Et puis après, quand je suis allée dans cette école du One Man Show, j'y ai trouvé le plaisir, justement, de reprendre un peu des choses qui me faisaient déjà rire. Et effectivement, ce plaisir de faire rire les gens, il est chouette. Mais... quelque part, je pense que moi, j'ai jamais vraiment eu ce truc de vouloir être sur scène plus que tout. Je pense que ce qui me plaît, c'est le partage avec les autres comédiens. Mon vrai, vrai, vrai plaisir, je l'ai eu quand j'ai monté ma compagnie et que j'ai écrit mes spectacles en collaboration avec Loïc Bartolini et qu'on a joué vraiment dans cet esprit de troupe avec de la tournée et tout ça. Ça vraiment, ça m'a montré un côté du métier que j'aime particulièrement. Tout ce partage, faire de la voiture ensemble pour aller jouer quelque part, installer le décor, jouer, manger après, aller marcher dans des villes qu'on ne connaît pas. Voilà, tout ça, c'est ce que je trouve le plus chouette, moi, du métier. plus que les applauses et plus que la valorisation scénique. Voilà.
Ouais, ça me fait penser à un souvenir que j'ai avec ça. Un spectacle que j'affectionne beaucoup, qu'on a fait en fin de Florent, qui s'appelle Bilboquet en famille, qui est vraiment un ovni qu'on a créé. Bref, et on a arrêté de le jouer pendant quelques années, puis ensuite on a eu l'occasion d'aller le jouer en Belgique, et on s'est revu pour le répéter. On avait bloqué un créneau de 3 heures. Vraiment, montrement, on a dû passer 2h30, 2h45 de fou rire à rigoler, juste de se retrouver, de redécouvrir le texte, et 15 minutes utiles de travail. Mais pour le reste, c'était vraiment, j'avais un souvenir qui était très très drôle. On rigolait beaucoup. Et ça, c'est beau.
Bah ouais.
Bon, bah on arrive à la fin des questions. Il faut savoir que les retardataires de l'impro, les plus connus, nous ont envoyé des vocaux pour répondre à des questions, mais pendant qu'on tournait. Donc, on va les découvrir en même temps que vous. On a d'abord, dans l'ordre, reçu un vocal de Grisha Mioche qui nous envoie.
Bonjour, je suis Thierry Frochet, le père fondateur de l'improvisation francophone et lusophone. Alors, je ne suis pas moi-même votre émission par manque de temps et d'intérêt, mais d'autres gens le font pour moi et on me rapporte une question des auditeurs. Y a-t-il des corps de métier pas encore invités dans l'émission que vous souhaiteriez faire venir? Et alors, je réponds en mon nom, mais qui a le poids que l'on connaît. Je remarque que dans aucune de vos émissions, vous n'avez invité de top modèle. Alors j'ai envie de demander hasard. Pourquoi cette absence. Les top modèles ne sont-ils pas aussi de la grande famille du show business dont nous sommes? Il se trouve que moi, personnellement, j'ai eu l'occasion d'initier de nombreux top modèles à l'improvisation, donc je sais que c'est un sujet qui les intéresse. Voilà, des top modèles très connus. Hein. Je ne dis pas leur nom par souci d'une discrétion. Évidemment. Qui est celle du gentleman, mais vous le connaîtriez, vous les connaîtriez. Voilà, du coup, j'en profite pour dire, si vous êtes top modèle et que vous souhaitez une initiation à l'improvisation, eh bien n'hésitez pas à envoyer vos coordonnées et votre book au catering, qui me feront suivre.
Tout à fait.
Parce que aujourd'hui, les top modèles sont sous-représentés dans l'improvisation théâtrale. Merci, c'était Thierry Frochet.
C'est marrant que les deux aient fait Thierry Frochet.
Oui, c'est drôle. Est-ce qu'il y a un peu une remarque cachée pour dire que tous les gens qui font de l'improvisation sont laids ou pas dans cette remarque?
Ah, je me suis pas.
Est-ce que
ouais,
ça manque de top modèles dans l'improvisation?
Il y a sûrement un jugement de la part de Thierry Frochet.
Je pense que Thierry Frochet, qui est quand même l'improvisateur le plus beau. Il existe donc.
Bien sûr, indéniablement.
Voilà. Et donc, dans les vocaux en retard qu'on a reçus, on a évidemment reçu ceux de Flavien Repert et de Fabien Strobel. Je ris d'avance.
Et on souhaite un bon anniversaire à toutes les jeunes chartiers.
qui te souhaite un anniversaire un jour en amont.
C'est pas mal, c'est
mais
déjà
c'est sympa.
Bien.
Un podcast sponsorisé par Julie Galibert. Julie Galibert sponsorise tous les podcasts.
Pas faux, c'est pas faux.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors voici une technique assez simple pour s'imposer, quelque chose de vraiment basique mais qui marche évidemment très très bien. Il suffit de se positionner devant l'autre personne, le plus près possible de lui ou d'elle pour qu'on ne voit que vous. Ça c'est une technique que j'utilise énormément et qui fonctionne vraiment très bien.
Avec son physique d'allumette.
Surtout que c'est le meilleur pour les trucs d'arrière-plan.
Oui, c'est ça, ouais.
Mais c'est pas faux, hein, ça
oui,
se tente.
Oui,
hein.
C'est drôle, venant de lui, c'est très très
ça
drôle.
Ça se tente.
Pour m'imposer, je vais sur impots.gouv.fr en n'oubliant pas de me munir de mon revenu fiscal de référence.
Ils nous ont laissé des vocaux vraiment pour le plaisir.
Heureusement qu'on les a eus à la fin parce que je vois pas comment j'aurais pu glisser ça dans l'émission.
C'est pas des réponses.
C'est bon, merci de moustachu. Merci beaucoup et bah, j'en profite. Merci infiniment à toutes les personnes qui ont pris ce petit temps pour nous envoyer ces vocaux.
Alors,
qui nous ont fait
on
beaucoup
a quand
rire.
Même pas demandé à tout le monde parce que du coup il y a des gens à qui on n'a pas laissé la chance non plus. L'opportunité.
Oui, 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 c'est ça. Faut pas,
on voilà. a fait un tri parce que c'était dans l'urgence et voilà. Mais peut-être qu'on refera ça et qu'on laissera encore plus de temps à nos anciens. anciens invités.
Peut-être qu'on l'anticipera un peu plus que deux jours avant.
C'est ça.
Voilà. Et ben voilà, on est sur la fin de ce FAQ. On va terminer comme d'habitude. On va pas changer une recette qui fonctionne. On va finir par nos recommandations.
Tout à fait.
Alors moi, je vais commencer. J'ai retrouvé un vieil album. Un album que j'écoutais il y a peut-être 10 ans, qui s'appelle Don't Explain, qui est l'album de Joe Bonamassa et Beth Hart. Je crois que c'est mon album préféré au monde de musique. C'est vraiment Joe Bonamassa, c'est un guitariste hors du commun. C'est à côté de lui, je voulais dire un autre guitariste, mais je n'en connais pas d'autre.
Jimi Hendrix.
Non, comment il s'appelle celui qui fait.
Ah oui.
Maria, Maria.
Ouais. Ouais.
T'as pas son nom ?
Non plus.
Eh ben on va laisser ça, parce que je m'en fous, je vais chercher. Hop. Les gens sont en train d'hurler chez eux. Mais espèce de con, c'est Santana !
Voilà,
c'est revenu. Je vous ai entendu, gens qui m'insultent. Bref, bah je le trouve meilleur que Santana, pour le coup. C'est un album. Et Beth Hart, c'est une femme qui a une voix exceptionnelle. Et en fait, ils ont fait un album de reprise. Mais vraiment des fois j'ai écouté 6 fois la chanson avant de me dire mais en fait c'est ça, ça te fait rire, oui. Et donc voilà, c'est un de mes albums préférés, donc si vous l'avez pas écouté, allez-y, c'est un petit bonheur pour les oreilles. Il y a des solos de guitare fantastiques. À toi.
À moi. Moi je vais faire de l'auto-promo, mais pas que parce que je trouve
Madame
que c'est vraiment bien.
Madame Tamayama.
Monsieur Première Étoile. du coup, on est bien fait la paire. C'est parce que je trouve vraiment le projet chouette. Sinon, j'en aurais pas forcément parlé dans les recos. Ça s'appelle La lutte des cases. C'est sur nova.fr. C'est une émission qui est animée par Vincent Brunner. Et le principe, c'est qu'il invite un auteur de bande dessinée avec lequel il va décortiquer un peu l'historique de la BD, certains passages. Enfin voilà. Donc c'est très intéressant quand on est assez fan de bande dessinée, même si on l'est pas. Et moi, j'ai eu la chance d'animer vocalement une planche ou deux de ces séries de bandes dessinées. Donc ça habille le podcast, mais c'est un tout petit moment en fait du podcast. Le reste reste surtout l'interview de Vincent Brunner sur toutes ces BD là. Donc on y retrouve des gens connus et des gens moins connus. C'est souvent des choses assez engagées, mais pas que en politique. Ça peut être aussi sur le féminisme, sur plein d'autres notions. Voilà. Donc je vous invite à aller sur nova.fr de manière générale, parce qu'ils ont plein de choses super, et notamment La lutte des cases.
Très bien, super. Voilà, autre recommandation, si vous êtes en voiture quand vous nous écoutez sur la route des vacances, faites une pause.
Faites
toutes
une
les
pause,
deux heures,
ouais,
c'est
puis
important.
Il fait chaud, et
prenez
puis,
un café.
Voilà,
tranquille.
Papoter, voilà. Et puis prenez le temps d'un peu de silence.
Bah oui, on est bien enfin. Des petites actus, là on n'a pas grand-chose parce que c'est les vacances. Je viens de penser que on aurait pu préparer un petit truc des spectacles à Avignon, de gens qui ont fait le catering, mais
oui.
Je ne les ai pas en tête, donc je ne vais pas en dire du tout, pour être sûr d'oublier personne. Mais sinon, les actus de la rentrée, moi, je vais avoir la Brigade Voltige, qui va jouer tous les mercredis à 21h30 au Théâtre Montmartre-Galabru. Minimas, qui va se jouer tous les dimanches à 20h au Théâtre Le Lieu. Voilà, ça va être les choses les plus fréquentes que je vais avoir sur Paris. Et sinon, je suis dans un spectacle pour enfants qui est très rigolo, qui s'appelle Professeur Biscotto. On va avoir quelques petites dates de tournée. Donc, je vous invite à suivre la page Instagram pour savoir. Et puis, voilà. Et aussi, ce dont je parlais tout à l'heure, La Tête dans les Histoires, donc, qui est un autre podcast d'histoires pour enfants. Si vous êtes en voiture avec des enfants que vous ne connaissez pas, eh bien, on vous offre la solution miracle. Mettez ces histoires et les enfants sont calmes. On reçoit tous les étés des petits messages de gens qui nous disent « Oh, merci !»
Oui, ça fait passer le temps. Et normalement, les adultes se marrent bien aussi.
D'ailleurs, pendant l'émission, moi, j'ai reçu un message Instagram de Mehdi Soucy, mon petit Lamousse, qui fait de l'improvisation à Dijon, voilà, qui nous dit « Je pense que j'ai beaucoup participé à ces 3 millions. » Et le nom de sa fille, qui s'appelle Jeanne, adore les histoires.
Ah.
Donc, voilà. Donc, franchement, voilà, allez-y, faites-vous plaisir. On vous offre ces cadeaux. C'est sur toutes les plateformes d'écoute aussi. Et puis, voilà. Toi, tu as des choses prévues à la rentrée ?
Le bonjour madame, toujours avec Chani et Julie, une fois par mois je pense, mais ce sera communiqué sur Facebook. Pour le reste, je suis toujours dans la compagnie de Gain Production avec Fushigi, je ne sais pas ce que ça va devenir. Pour le moment, on n'a pas de date à annoncer, mais j'espère bientôt. Peut-être un retour du grand redoublement, on l'espère, on est en train d'y travailler avec Guillaume Darnaud. Et puis, le duo Jeanne et Julie, pareil, on cherche des dates. Si vous avez envie de nous voir chez vous, c'est pareil, un petit message et ça peut se faire facilement. Voilà,
si
pour le
aussi
reste,
avoir des petites dates, je travaille droite en voix. À gauche, tout ouais. Ça, voilà. Voilà un petit peu les petites promotions. Petit rituel de fin.
On n'avait rien à manger, on n'avait quasiment rien à boire.
Le biberon est fini.
Le biberon est fini. Je remarque qu'on se traite moins bien que nos invités. Il faut que ça change. Mais maintenant, les lumières sont éteintes. On va où? On fait quoi?
Bonne question. On part en vacances.
Eh oui, ce que j'allais
ouais,
te dire.
On part en vacances.
On part en vacances.
On charge la voiture et on part en vacances.
Road trip.
Petit arrêt à Avignon.
Ouais, on va voir quelques copains à Avignon.
On va voir des copains à Avignon.
On va voir des copains à Clermont. On va voir des copains à Avignon.
À Lyon.
On va voir des copains à Lyon.
Dans l'Aveyron.
Dans l'Aveyron.
Portugal.
Espagne, Portugal.
Voilà. De toute façon, on ne revient pas avant septembre. Foutez-nous la paix. Ouais, on va prendre des grosses, grosses vacances parce qu'on est fatigué, hein, comme vous pouvez l'entendre. Un bébé.
Mais c'était trop chouette de faire
c'était
ce petit
très,
bonus.
Très bien de faire cette petite émission bonus
Et
avec vous.
Et en vrai, vous nous manquez déjà.
Oui, vous nous manquez déjà. On a très hâte de revenir.
Moi, j'aimerais juste dire un grand merci à tous ceux qui nous écoutent régulièrement. C'est grâce à vous que ce podcast trouve une raison d'exister encore. Et puis, se dire que ce projet, on l'avait fait à la base pour se faire plaisir et qu'on est hyper heureux de recevoir vos messages quand vous le faites, pour nous dire que vous avez passé un super moment, que telle émission était chouette, que vous voulez poser une question. Voilà, sachez qu'on lit tout et tout nous fait plaisir et on espère que ce podcast, il apportera autant de bonheur à ceux qui l'écoutent qu'à nous qui le faisons.
Voilà.
Et puis remercier aussi, même s'ils écoutent moins que vous, je pense, mais les invités qui sont passés dans ce catering parce que sans invités, il n'y a pas de catering. Donc voilà, merci à tous
tout
ces gens qui ont accepté de venir passer ce moment avec nous. Et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres.
Voilà, c'était donc le dernier épisode de la saison 2. Je ne sais pas s'il y aura des nouveautés dans cette saison 3. Peut-être que ça sera la même formule. On va voir, on va y réfléchir pendant cet été. Alors peut-être de nouvelles choses, peut-être pas. On verra, ça sera la surprise. On vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Et puis, on se dit en septembre.
Salut les amis.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cette émission. Le générique et toutes les musiques de ce podcast ont été composées par Nicolas Beignet. Merci à lui, ainsi qu'au studio Aircom Rhythm. Merci également à Maxime Guerville pour les visuels de l'émission. Pour connaître toutes les informations sur les prochaines émissions, suivez-nous sur Facebook, Twitter ou Instagram. Toutes nos émissions sont diffusées en live sur Instagram avant d'être disponibles en podcast. N'hésitez pas à nous laisser une note sur Apple Podcasts.